Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est le désir. Hier, il s'agissait de savoir, par l'expérience de la psychanalyse, si l'on désire ce que l'on veut et vice-versa, et surtout ce qu'en dit le corps. Demain, mercredi, nous nous demanderons ce que l'accès immédiat et infini à des images érotiques ou pornographiques sur Internet fait au désir. Jeudi, c'est au théâtre que se posera la question de la formulation du désir avant vendredi de consacrer une carte blanche cinématographique au désir. Voilà pour le programme de notre série. Aujourd'hui, nous nous demandons comment placer le désir d'apprendre et de transmettre au cœur de l'enseignement. Le choix de sa propre joie et le développement de chaque désir dans le respect des joies et des désirs des autres rejoignent la vision qui fonde l'approche de l'éducation à la joie. Une des significations du mot « éduquer » est « tirer hors de ». Nous pourrions ainsi imaginer que lorsque l'on éduque, la partie la plus généreuse des individus est soustraite à l'ombre pour être révélée en pleine lumière et ainsi contribuer à leur épanouissement. Ce faisant, on rendrait à l'éducation sa propre fonction originelle qui est maïotique, car comme la déesse Maya, elle nous aiderait à enfanter de nous-mêmes et faire émerger ce qui me semble manquer le plus en ce moment de l'histoire de l'humanité, la joie de vivre. Ce sont des mots d'Antonella Verdiani qui propose aux éditions Actes Sud un tour d'horizon de toutes les initiatives éducatives innovantes qu'elle a rencontrées. Il est 14h passé de 2 minutes où on vous propose, nous, de la radio et de la joie de vivre. Bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Et les nouvelles vagues, c'est bien sûr le nom que nous donnons à ce que nous observons changer, se renouveler, se redire dans le monde contemporain, mais c'est aussi ce qui en son temps a ouvert dans le parcours de chacun des nouvelles voies. Chaque semaine, nous demandons à quelqu'un de s'en souvenir de ces moments marquants. Et jusqu'à vendredi, c'est l'éditeur Henri Dougier qui fait cet exercice au micro de Romain de Bec-de-Lièvre. Et aujourd'hui, il évoque une géante, une marionnette géante de la compagnie Royal de Luxe, Déambulation et émerveillement vers 14h45. C'est le deuxième moment d'une semaine thématique sur le désir. Il s'agit aujourd'hui d'interroger conjointement le désir d'apprendre, celui de connaître et celui de transmettre et de savoir comment il se retrouve ou ne se retrouve pas au cœur des situations d'enseignement à l'école par exemple. Le désir d'apprendre se suscite-t-il ou est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut vraiment s'éteindre et dans ce cas pourquoi? Comment résiste-t-il ces désirs d'apprendre et de transmettre aux difficultés de moyens et d'organisation auxquelles fait souvent face l'école? Claire Leninan, vous êtes professeure documentaliste au lycée collège Jacques Decour à Paris. C'est entre autres grâce à vous qu'on a fait 5 émissions avec des élèves dans un CDI. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Thierry Braconnier, vous êtes thérapeute, psychothérapeute et psychopédagogue au CMPP Claude Bernard à Paris, qui à travers sa pratique clinique mais aussi les colloques et les formations qu'il organise réfléchit à ses désirs d'apprendre, de connaître, d'enseigner. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors peut-être on peut d'ailleurs commencer avec vous sur ce mot-là dont on discutait hier, de savoir s'il était usé ou non, ce mot du désir. Est-ce que c'est un mot qui est souvent utilisé lorsqu'on réfléchit en psychopédagogie à ces situations d'apprentissage, le mot du désir?
Oui. Peut-être on pourrait dire que il y a à la fois le mot désir et le mot pulsion qui sont mêlés dans les discours, les différents discours, des spécialistes, des professionnels concernant ce mouvement qui, chez tout le monde, nous emmène vers la connaissance, vers le savoir, vers l'histoire, vers les origines, c'est-à-dire à la fois vers le passé et vers un destin, vers le futur. Hier, ça a été dit, très bien dit, et notamment à travers des expressions lacaniennes, le désir, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui échappe à notre contrôle, donc c'est quelque chose dont on ne peut pas parler facilement, et c'est ce qui va faire le lit du, si j'ose dire, du discours sur le divan de la psychanalyse. Et puis, dans la théorie, on va parler aussi de pulsions, mais je pense que pour aujourd'hui, c'est un peu les deux, et peut-être je ferai d'emblée référence à une psychanalyste qui est assez connue de l'école anglaise, Melanie Klein, qui a beaucoup parlé de la pulsion épistémophile, c'est un bien grand mot.
Qui veut dire quoi ?
Pour dire justement ce mouvement vers le savoir, le désir de savoir, on pourrait dire la pulsion vers le savoir, vers la science, et qui s'appuie chez tout enfant sur l'envie, le besoin, le désir, le mouvement vers la connaissance du corps maternel, avant toute chose, de son propre corps aussi. Et tout ce qui va arriver, tout le destin qui va arriver à cette pulsion, sera aussi le destin des pulsions annexes de la qui nous emmènent vers la connaissance du monde. C'est-à-dire connaître le corps maternel d'abord, et si on peut, si ce corps est connaissable, s'il n'y a pas des obstacles qui en font un interdit, alors on peut aller vers la connaissance du monde, la connaissance de l'univers.
Et alors on l'entend bien, et d'ailleurs vous l'écrivez dans certains articles que vous consacrez à cette question du désir d'apprendre, du désir de connaître et du désir de aussi recevoir une forme de transmission de connaissances. C'est vraiment une affaire personnelle, c'est une affaire même intime, puisqu'on voit qu'il se fonde ce désir dans un rapport et dans un appétit de connaissance d'abord tout petit, dans un rapport de très grande proximité. Alors comment le penser quand on veut le penser à une échelle plus collective, à l'échelle de la classe, à une échelle plus quotidienne aussi, moins intime? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre assez facilement?
Oui, là vous posez finalement la question du passage de l'individuel au groupal. Et c'est une question qui est beaucoup travaillée, et en particulier, puisque vous l'avez nommée au CMPP dans lequel je travaille, c'est pas le seul endroit où je travaille, je parlerai aussi d'autres endroits, mais dans celui-là, le travail groupal est beaucoup étudié, et la classe est un groupe. Après, votre question rejoint aussi mon histoire personnelle, c'est-à-dire il se trouve que après avoir étudié les mathématiques dans le but d'être enseignant, après les avoir enseignés un peu, quelques années, j'ai fait le choix de me séparer de l'éducation nationale et donc de me séparer aussi du travail d'enseignement en classe, pour me consacrer au travail individuel. D'une part, sous forme de travail pédagogique aussi, avec les mathématiques, avec des élèves, entre guillemets, qui sont parfois devenus des patients. Et d'autre part, un travail en psychologie clinique plus classique, psychothérapie et psychanalyse.
Alors pourquoi ? Puisque vous dites que ma question sur la possibilité du passage de la manière dont on pense le désir de connaître à une réflexion plus quotidienne sur comment on organise un groupe à l'école, un groupe de classe dans l'éducation nationale, ça veut dire que dans l'éducation nationale, ce que vous souhaitiez faire ou ce que vous saviez du désir d'apprendre de chaque élève n'était pas possible ?
Oui, enfin bon, la première réponse serait de dire simplement je me suis éloigné de cette question. Je ne l'ai pas moi-même spécialement travaillé, donc je la laisse aux gens qui sont à l'éducation nationale et qui y travaillent, c'est sans doute possible. Mais je souriais parce que, en fait, en trois questions, vous avez mis le doigt sur une étape importante qui a joué un rôle dans mon choix de me séparer de l'éducation nationale, et c'est une inspection. L'inspectrice, professeure de mathématiques de terminale C à l'époque, m'a clairement dit « Vous avez une bonne relation avec vos élèves dans la classe, ça s'est très bien passé le cours, elles ont bien réagi, c'était surtout des filles dans cette classe, et ça n'est pas du tout ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de faire des cercles qui soient parfaitement ronds au tableau, ce qui n'était pas le cas du vôtre, et c'est de ne pas oublier de démontrer la réciproque du théorème, je ne sais plus sur quoi ça portait. C'est-à-dire, on vous demande de préparer tous les élèves à la potentialité de faire un bac scientifique. Or, je savais que cette classe avait été constituée dans des groupes de niveau, ça se faisait à l'époque, c'était une classe de seconde.
C'était quelle époque ?
C'était donc début des années 80. Et que les élèves de cette classe allaient pratiquement tous et toutes se diriger vers une première littéraire.
Alors quoi, vous favorisiez autre chose ?
Donc je favorisais, en effet, un travail en commun, des réactions groupales, des réflexions groupales. Je ne favorisais pas l'excellence du programme de Terminal C, auquel peu de ses élèves auraient accédé. Enfin, ça n'était pas leur objectif, en tout cas. Mais c'était bien l'objectif de l'inspectrice.
Moi, il est hors de question que j'aille en cours en traînant des pieds. Et quand je vais rencontrer mes élèves, je leur propose et je leur enseigne ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la littérature, la grande littérature. Et les élèves marchent parce que lorsqu'ils sentent que l'enseignant qui est face à eux est passionné et ne brade à aucun moment ses passions, ils ont envie d'entrer dans le système esthétique, philosophique que ce dernier propose. Et ça marche, encore une fois. C'est une question de courtoisie, de respect réciproque entre eux, entre moi, et je leur donne beaucoup, ils me le rendent à chaque cours. Enfin, pas toujours, il y a des jours où ça rate complètement, mais au final, quand je pèse le pour et le contre, ce qui a été très décevant et surtout ce qui a marché, je pense que les choses fonctionnent assez bien.
On entend la voix de Cécile Ladjali ici au micro de Kathleen Evin à France Inter dans l'humeur vagabonde en 2004. Cécile Ladjali qui est à la fois auteur et à la fois professeur et qui parle de son désir de transmettre en des termes qui sont de l'ordre de ne pas brader ses passions. Est-ce que Claire Le Ninant, quand vous réfléchissez à la question du désir de transmettre, vous y réfléchissez en quels termes?
Alors,
est-ce que vous avez déjà souvent l'occasion de l'interroger, ce désir de transmettre ?
Oui, bien sûr, tous les jours, hein, puisque bon, je suis au contact des élèves tous les jours. Alors, ma profession est un peu particulière, hein, je suis professeur documentaliste, donc je m'occupe de ce qu'on appelle un centre de documentation et d'information, c'est-à-dire en gros une bibliothèque à l'intérieur d'un établissement scolaire. Oui, je l'interroge énormément, puisqu'en fait, j'ai la chance de m'occuper d'un espace, en fait, d'exercer ma profession dans un espace libre et ouvert. Donc un espace où les élèves ont le choix de rentrer ou pas. Donc quand ils font l'effort de pousser la porte, de rentrer, etc., effectivement, ils sont motivés par un désir, qui est un désir, des fois, tout simplement de travailler, hein, de faire ses devoirs bien consciencieusement, des fois de passer un moment agréable au milieu des livres ou consulter Internet. Mais toujours est-il que oui, il y a une démarche volontaire, donc un désir qui motive la venue des élèves vers moi, finalement, et dans ce lieu.
Est-ce que vous vous souvenez, dans votre formation et dans votre parcours jusqu'à maintenant, si cette question du désir de transmettre, du désir de faire connaître, aussi dans le cadre de votre travail, du désir d'accueillir dans un lieu, était quelque chose qui avait de la place pour être questionné ?
Dans mon propre parcours, alors moi j'ai fait des études de lettres assez poussées, et effectivement j'aurais pu devenir professeur de lettres. Et je me suis interrogée très tôt justement sur la liberté de l'élève par rapport au savoir. Donc, très tôt, hein, j'ai passé mon CAPES à 22 ans, j'ai choisi plutôt un CAPES de documentation parce que j'avais l'idée que peut-être qu'en ayant une démarche plus libre que dans le cadre d'une classe, les élèves accéderaient à un savoir peut-être plus large. Ou voilà. Alors, c'est une idée de départ, hein, ça se vérifie, ça se vérifie pas. Ça dépend beaucoup des élèves. Mais en tout cas, oui, je me suis beaucoup interrogée là-dessus, avec une volonté d'ouvrir au plus grand nombre, finalement, et d'une façon assez libre et volontaire, un accès aux livres. À l'époque, c'était plutôt des livres, maintenant c'est également des documents numériques. Mais accéder à une information qui peut servir dans le cadre scolaire, ou qui peut, de toute façon, être utile à l'élève personnellement, dans son parcours à lui.
Alors évidemment, on va parler sur plusieurs niveaux, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, Thierry Bracconi, en évoquant le désir de savoir, le désir de connaissance, la pulsion vers cette connaissance, c'est quelque chose qui est peut-être souterrain et auquel vous n'avez pas affaire quotidiennement, cet endroit-là. En revanche, vous pouvez peut-être dialoguer avec les envies de connaissance, avec un appétit de connaissance, qui est peut-être quelque chose un tout petit peu plus en surface. Est-ce que c'est quelque chose qui est exprimé? Est-ce que c'est quelque chose que vous questionnez quand un élève rentre dans le CDI? De quoi t'as envie? Qu'est-ce que tu viens faire? Alors, qu'est-ce que tu cherches?
Ouais, effectivement. Alors, la première chose, je pense que c'est de les laisser assez libres, de faire ce qu'ils veulent, à l'intérieur de ce CDI. Mais être libre, ça veut pas être dire, ça veut pas dire du tout être laissé livré à lui-même, quoi. Donc on est là avec mes collègues pour les questionner, soit au détour, voilà, un élève nous demande un livre, voilà, et il y en a d'autres qui viennent avoir des conseils, soit des conseils de lecture. Donc là, il faut effectivement beaucoup interroger, que ce soit pour quel que soit le lecteur, hein, que ce soit des collègues ou alors des élèves, questionner les envies, en fait. Qu'est-ce qu'ils sont, finalement, ces lecteurs? Qu'est-ce qu'ils aiment? De quoi ils ont envie? Et pour les amener vers le bon livre, sachant qu'on peut se tromper, mais il y a tout un questionnement, hein, qui est peut-être assez proche d'un diagnostic, finalement, pour proposer plusieurs choix en matière de lecture. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie livre, hein, lecture. Mais notre métier est bien plus complexe que ça. Mais à chaque fois, effectivement, on part d'une démarche de l'élève vers nous. Enfin, moi, je préfère toujours que l'élève vienne vers moi plutôt que je vienne vers l'élève et que peut-être je vais un peu le déranger. Mais ça m'arrive de le faire également pour l'amener vers où il veut aller et peut-être plus loin aussi de ce qu'il veut aller.
Vers où il ne sait pas que peut-être
voilà,
il veut aller.
Voilà, et ça c'est vraiment important, hein, de partir effectivement d'une attente et d'aller l'aider à rencontrer peut-être autre chose au-delà de cette attente.
Thierry Braconnier, est-ce qu'il y a dans ces colloques, ces formations, mais aussi pourquoi pas des consultations, est-ce qu'il est interrogé ce désir de transmettre plutôt du côté des professeurs, des enseignants, avant qu'on revienne éventuellement tout à l'heure sur les élèves? Est-ce que vous avez l'occasion régulière de le faire?
Oui, vous avez cité les formations, effectivement. On sent bien que les enseignants ont envie de réfléchir sur cette question et de comprendre finalement quels sont les enjeux de leur propre désir de transmettre en miroir, je ne sais pas si on peut dire miroir d'ailleurs, vis-à-vis du désir d'apprendre, de savoir des élèves qu'ils ont en face, et y compris des barrages par rapport à ces désirs. Donc on sent bien qu'il y a des demandes et... Bon, Claude Bernard, il y a une formation sur la psychopédagogie, mais il y a d'autres formations aussi auxquelles les enseignants participent volontiers.
Parce que c'est quand même un pivot, que la connaissance de son propre désir de transmettre et de faire connaître, notamment par exemple dans le monde d'aujourd'hui où enseigner n'est pas forcément de tout repos, y compris quand on est dans des classes avec beaucoup d'élèves, avec des emplois du temps très chargés, des établissements qui connaissent parfois des difficultés. Ça veut dire que ce désir-là de transmettre, il est très souvent mis à l'épreuve. Alors faire connaissance avec ce désir-là, est-ce que c'est pas aussi un pivot et un moyen éventuel de résistance ou d'endurance?
De résistance, oui. D'endurance. Oui, sans doute. Oui, oui. Et les élèves sont très sensibles, je pense, à la manière dont cette transmission s'effectue, c'est-à-dire à la réflexion qui est en amont de la transmission.
Ça se parle, ça? Vous pensez qu'en classe, il faut que ce désir-là soit parlé, soit dit par le professeur, ou c'est quelque chose qui concerne le professeur et lui-même?
Dans les disciplines littéraires, je pense que ça se dit. En philosophie, ça se dit. Après, je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Moi, je me souviens d'avoir été enseigné, pour ce qui est des mathématiques, à l'intérieur du discours technique lui-même, à l'exclusion de toute réflexion épistémologique et de toute réflexion psychologique, y compris sur la transmission. Après, les questions de la transmission viennent à côté, en surplus, c'est-à-dire on va les choisir, on va les chercher.
C'est-à-dire ?
Elles ne font pas partie de l'enseignement lui-même.
C'est-à-dire ? Quand vous dites que ça vient en surplus ?
Ça vient en surplus, c'est-à-dire on peut aller les chercher, on peut assister à des séminaires. On peut... Je me souviens, par exemple, pour ce qui concerne les mathématiques, d'avoir assisté... à des séminaires de Daniel Sibony, psychanalyste, mais psychanalyste et mathématicien, qui ouvre un champ de pensée, y compris sur la transmission, qui est qui était en tout cas à l'époque complètement exclu de la chose enseignée en matière de mathématiques classiques.
Leçon numéro 5. Variation de rythme vocaux, sans tempo. Suivez et articulez les phrases suivantes. Ce n'est pas compliqué. Laissez-vous aller.
C'est une langue, mais une langue extrêmement complexe, une langue qui ne se prive pas de faire des emprunts dans la langue maternelle, qui s'inscrit dans la langue maternelle, justement.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin.
La pédagogie, ça n'est pas, ne consiste pas à se dire est-ce qu'il faut enseigner les mathématiques ou telle partie des mathématiques. Ça consiste à dire comment enseigner les mathématiques. Et ce comment a pris le pas sur le pourquoi.
C'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serai pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa.
Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis.
Bravo, vous venez d'accomplir la leçon numéro 5. Passons à la numéro 6.
Et on en a comme ça quelques-unes. C'est un mix proposé, réalisé par Somanina et Julien Delmas, où il y a beaucoup de choses, à la fois évidemment la chanson de Jacques Brel, mais aussi la voix de la pédagogue Stella Baruch, qui a réfléchi à la transmission des mathématiques, mais aussi un extrait d'un documentaire de 1993 sur la pédagogie autour des mathématiques, où il est dit on a beaucoup réfléchi à comment et on a peu réfléchi à pourquoi. Toutes choses qui font référence, Thierry Braconnier, à des choses que vous pensez. Je fais référence notamment à un article qui reprenait une contribution à un colloque qui était « As-tu rencontré les mathématiques aujourd'hui ?» Pourquoi est-ce qu'il y a dans le désir de transmettre les mathématiques, dans le désir d'apprendre les mathématiques, quelque chose qui est assez communément empêché, assez communément problématique ?
Oui, je commencerai d'abord par dire l'admiration que j'ai pour ce mix que vous venez de passer. Et de partager, parce que si j'ai proposé, je ne suis peut-être pas le seul, j'ai proposé cette chanson de Brel, je me suis demandé finalement pourquoi je l'avais proposée. Et pudiquement, je dirais simplement que c'est pour illustrer le désir maternel. Si j'ai fait du latin, je pense que ma mère y est pour quelque chose et qu'elle aurait été contente d'écouter cela. Elle aimait beaucoup cette chanson. Pour répondre maintenant à votre question, je dois préciser que l'article auquel vous faites référence a été effectivement prononcé dans un colloque à Claude Bernard, mais que son matériel vient de mon travail dans un hôpital de jour pour adolescents de l'association Cérep Fimentin à Paris, et que ce que je mets en lumière là, c'est le dispositif dans lequel nous travaillons avec un adolescent qui est, pour diverses raisons, en souffrance psychique et notamment, ou plutôt aussi en souffrance par rapport à son parcours scolaire et par rapport aux mathématiques, même s'il a par ailleurs des cours de mathématiques dispensés par des professeurs de l'éducation nationale qui viennent travailler dans nos locaux. Un dispositif à trois, j'insiste là-dessus, l'adolescent, une assistante et moi-même. L'assistante, elle joue un rôle de tiers extrêmement important parce que elle n'est pas spécialisée en mathématiques, c'est une femme, elle est plus jeune, etc. Et à partir de là, les idées, les problèmes qu'on pose en mathématiques, les discussions tournent, parce qu'il faut 3 points pour faire tourner les affects.
Comme pour dessiner un cercle.
Comme pour dessiner un cercle, exactement. On parle du triangle de psychopédagogique, on peut parler du cercle. Et d'ailleurs, dans notre bureau, la table est circulaire. Et l'adolescent n'est plus face à face, dans un rapport imaginaire avec un enseignant, avec celui qui sait. Mais il est pris dans cette circulation d'idées, encore une fois, les idées, les doutes, les interrogations, mais aussi les propositions, le rire, la bonne humeur, etc., les affects. Tout cela tourne. Et il va inscrire, finalement, sa réflexion avec les nôtres, celle des intervenants adultes. Et petit à petit, retrouver des possibilités de penser sur les objets mathématiques qui lui sont proposés ou qu'il amène lui-même.
Alors justement, peut-être avant de revenir sur cette question du tiers avec Claire Léninan, mais s'arrêter un instant sur la spécificité des mathématiques, parce que c'est aussi cela que vous proposez de penser, et reprendre les quelques mots de Stella Barouk au micro de Xavier Delaporte qu'on entendait au milieu de ce mix, et qui disait « c'est une langue, il ne faut pas oublier que c'est une langue qui emprunte aussi à la langue maternelle. Dans mes souvenirs, il me semble que les mathématiques ou la mathématique m'a rarement été transmise comme un langage et comme une langue. Pourquoi est-ce que on passe à côté de ça dans le désir de transmission des mathématiques? Pourquoi est-ce qu'on passe à côté de la question du langage?
Oui, le propos de Stella Barouk est justement paradoxal, en effet, parce que les souvenirs que nous en avons, scolaires, c'est justement que le discours mathématique est totalement épuré de toute acception maternelle, psychologique en général, affective. Il est pur et dur. Et Stella Barouk a raison de dire que, en fait, il est peut-être au niveau de l'école primaire, au niveau des acquisitions primaires, lié au langage maternel. C'est-à-dire que d'abord, l'enfant apprend à compter. Avant même qu'il ait appris à écrire, il apprend à compter, et que ce compter-là fait partie du jeu entre la mère et l'enfant. Ensuite, ça va se spécialiser, bien sûr, les connaissances vont se spécialiser, et il va apprendre des choses de plus en plus compliquées qui vont s'éloigner jusqu'à faire rupture avec le discours maternel, avec la langue maternelle, je dirais aussi bien avec la langue commune, pour devenir une langue spécialisée. Et il faut que l'enfant accepte, mais parfois il ne l'accepte pas, cette rupture et le passage d'une langue maternelle, de la langue commune, à une langue spécialisée qui le sépare et qui l'éloigne.
Justement, pour revenir simplement à la question du tiers, Claire oui. Léninan, c'est assez intéressant. En effet, on n'a pas passé beaucoup de temps avec Thierry Braconnier à détailler ce procédé pédagogique qui veut qu'il y ait une troisième personne dans la relation. Est-ce qu'il n'y a pas, et combien cette troisième personne dans la relation d'apprentissage est importante, est-ce qu'il n'y a pas, dans la position du professeur documentaliste, l'idée justement d'être un peu le tiers de cette situation d'enseignement?
Alors effectivement, puisqu'on a un rôle un peu à part dans l'établissement et que par ailleurs, on travaille beaucoup en projet avec des collègues enseignants. Donc, il n'est pas rare qu'on soit 2, voire 3, et quand vous étiez là, bien plus, devant une classe, et que chacun, effectivement, ait un rôle de médiateur. On ne transmet pas forcément les mêmes choses, mais c'est une richesse réelle pour l'élève, je pense, qui trouve dans la parole de l'un, ce qu'il ne trouve pas dans la parole de l'autre, une approche différente. Des fois, on travaille par groupe. Je pense, par exemple, en première, où les élèves font des travaux personnels encadrés, c'est-à-dire un travail de recherche. On est avec 2 enseignants, on passe de groupe en groupe, et on a chacun une parole, et on construit comme ça, chacun un peu on participe au rapport de l'élève par rapport à son sujet, quoi. Alors moi, évidemment, ça va être la recherche d'informations, hein, plutôt, mais ça peut être questionner la problématique, etc., de façon différente que mon collègue de discipline. Et je travaille notamment pas mal avec des collègues de sciences, donc on a une approche totalement différente, moi qui suis plutôt littéraire, et mes collègues scientifiques, et on se complète. Et je pense que l'élève... Il se reconnaît soit chez l'un, soit chez l'autre.
Et est-ce que vous diriez qu'il a plus de place si on revient de son côté à lui, à l'élève, et avec son désir de connaître et son désir d'apprendre, moins pris dans la relation interindividuelle de celui qui sait et celui qui apprend, mais avec peut-être un peu plus d'air, un peu plus de circulation, il a plus de place ?
Alors on essaye de lui en donner davantage, effectivement. Qui s'y retrouve plus, en fait, dans cette situation d'apprentissage. J'espère que c'est ce qu'ils ressentent aussi quand ils viennent travailler au CDI. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils apprécient de venir travailler dans ce cadre de groupe un peu imposé, puisque là, pour le coup, il est plus libre de venir. Il est dans une structure préétablie, une classe. Oui, je pense qu'il s'y retrouve. En fait, bon, vous êtes intervenu en classe média, en fait, c'est... Voilà, un dispositif d'éducation aux médias. Les élèves sont passionnés par cet enseignement et je pense qu'on laisse la place à ce qu'ils sont, effectivement.
Thierry Braconnier, vous avez dit tout à l'heure combien c'était une évidence de faire qu'il y ait un tiers dans ces moments, par exemple à l'hôpital de jour autour de la transmission des mathématiques. Pourquoi c'est une évidence ? Pourquoi est-ce que c'est si... Qu'est-ce que ça change de ne plus être deux et d'être trois ?
C'est le passage de l'imaginaire au symbolique, peut-être, je ne sais pas. On pourrait dire comme ça. C'est quelque chose qui est proposé, en tout cas, en synthèse ou par les référents de l'adolescent, lorsqu'il constate que la relation directe et duelle avec l'enseignant ne fonctionne pas. Et pourquoi ne fonctionne pas ? Ben parce que la relation, c'est comme un segment. Hein, je vais reprendre des images géométriques.
Mathématiques,
c'est pas
même.
Grave. Hein. C'est un segment entre deux points. Le point élève, le point enseignant. Bon, l'enseignant qui sait tout, et l'élève qui, évidemment, en face de lui, ne sait rien. Il y a ce que je nommais tout à l'heure une relation imaginaire. Et, c'est-à-dire qui donne lieu à des possibilités de fantasmes. Qui peuvent être des fantasmes extrêmement durs contre l'élève, enfin de lui à lui.
Hein. Et qui empêchent.
Et qui empêchent, et voilà, qui sont dans le sens d'un empêchement. Maintenant, prenez ce segment en son milieu, comme une corde sur un arc, tirez-le vers un troisième point, tirez ce milieu vers un troisième point, donc pour créer le cercle. À ce moment-là, il y a une circulation. Je reprends ce que je... finalement, ce que nous disions tout à l'heure, une circulation dans laquelle les doutes et les questionnements peuvent se dire de l'un à l'autre et d'une façon plus ou moins ludique ou en plaisantant, etc. On joue beaucoup aussi dans nos séances. Hein. On a du matériel de jeu, on a des livres avec des devinettes, des astuces, etc. C'est quelque chose de vivant, où on va essayer de remettre à jour des désirs, et pas seulement le désir de l'adolescent, mais en effet, les nôtres aussi, le mien, celui de l'assistante, qui sont des désirs de transmettre, mais pas seulement, aussi des désirs de connaître, de découvrir.
Alors vous dites, on joue beaucoup, il y a de la joie à vivre. Je citais en introduction de cette émission les propos d'Antonella Verdiani qui fait le tour comme ça de quelques situations d'enseignement, de transmission, des situations éducatives qu'on dit alternatives dans le monde entier ou en Europe. Comment considérer encore aujourd'hui que ce soit des situations qui soient considérées comme étant alternatives ? Comment considérer que mettre la joie de vivre, la joie d'apprendre, la joie de transmettre soit quelque chose qui soit à côté, qui soit un peu à part et qui ne soit pas la règle ou la chose la plus communément répandue dans l'éducation nationale. Thierry Braconnier.
Là, je ne sais pas trop à qui il faut poser la question parce que...
Ben moi, je vous demande, vous dites, pour vous, c'est une évidence de faire jouer, d'apprendre en jouant, d'être joyeux. Oui. Alors, ça fait quand même des années que le discours de la pédagogie qu'on dit alternative est tenu sur ce terrain-là. Pourquoi est-ce que c'est si difficilement applicable ?
Mais il doit y avoir... En effet, d'autres enjeux qui pèsent de tout leur poids dans l'organisation des études en général et qui font que cette joie dont vous parlez ne fasse pas vraiment partie du programme. Hein. Mais là encore...
Alors que tout le monde s'accorde à dire que tout va mieux quand c'est joyeux. C'est bizarre. Non mais c'est vrai quand même, non ? Je sais pas.
C'est vrai, vous avez raison.
Claire Neninan, parce que vous qui n'avez pas, comme Thierry Braconnier, laissé l'éducation nationale pour aller à un autre endroit, vous y êtes resté, vous êtes dans l'éducation nationale. On peut pas dire que la joie de vivre, ce soit ce qui soit le plus véhiculé quand on parle de l'école. C'est pas dire qu'elle est inexistante, loin de là. Cependant, comment est-ce que vous comprenez que le caractère joyeux, collectif de l'apprentissage soit si difficile à rendre incontournable.
J'ai du mal à répondre aussi à cette question-là. C'est peut-être aussi une question de moyens, tout simplement. Un groupe de 36 élèves face à un professeur, comment faire attention à chacun, comment créer un lien avec chacun, puisque on l'a bien vu, la relation est très importante dans la concrétisation de ce désir de savoir. Donc ça vient peut-être de là aussi, tout simplement. C'est évident que quand on est face à un élève individuel, un individu, on va pas, la place de l'individu, sa joie, ce qu'il est, lui, a peut-être plus de place. C'est peut-être une réponse. Après, évidemment, le jeu, ça demande des espaces, peut-être, un accompagnement particulier qu'il est peut-être difficile de mettre en place au sein d'une classe. Après, je pense qu'il y a des collègues aussi qui fonctionnent aussi comme ça, avec bien les sûr. Moyens qu'ils peuvent, qu'ils ont. Et ils essayent de favoriser le travail en atelier, le travail par petits groupes, l'expression de chacun, que chacun ait sa place méritée dans la classe.
Ce qui oriente notre pratique, d'enseignant, mais ça peut être aussi d'artiste et pourquoi pas de politique. Ce qui oriente notre pratique, c'est la présupposition qu'on s'adresse à des êtres qui sont également intelligents parce qu'ils vont lier ce qu'ils savent déjà ou ce qu'ils peuvent déjà à quelque chose qu'on va leur permettre d'acquérir. Ceci par opposition à la pratique pédagogique habituelle qui suppose toujours un petit peu, l'ignorance de l'ignorant, la table rase, le fait que l'ignorant non seulement ignore, mais en plus ignore comment il pourra passer de l'ignorance à la science et que seul, bien sûr, le maître savant sait non seulement le savoir, mais aussi la progression des étapes par lesquelles on passe de l'ignorance à la science. Ceci, Jacques Tau l'a caractérisé en un mot rude mais justifié, l'abrutissement. C'est-à-dire, au fond, cette espèce de dispositif où on promet toujours à l'autre, à l'élève, au subordonné, qu'il sera un jour aussi savant que vous et votre égal, mais pas un processus qui précisément ne fait que recreuser indéfiniment la distance.
La distance qui se recreuse et se recreuse, c'est la voix de Jacques Rancière au micro d'Alain Weinstein sur France Culture. Et à propos de Jacques Tau, on était en 2009. En effet, quid de ce désir d'apprendre de l'élève et du désir de transmettre du maître si l'on suppose cette relation intouchée qui serait celui qui sait et celui qui ignore, celui qui est passif et celui qui est actif. C'est aussi quelque chose que vous discutez, Thierry Braconnier, dans vos articles, cette question de la passivité. Est-ce que c'est un présupposé qu'il faut absolument abolir ?
Activité, passivité, tout à fait. Abolir, je ne sais pas. Puisque je parlais de pulsion au début, dans la pulsion, il y a des notions d'activité et de passivité. Alors, on pourrait... imaginez que l'élève doit être passif et que l'enseignant doit être actif. Et puis, dans différents couples thérapeutiques, comme ça, entre l'adolescent et ses référents thérapeutes, ses référents psychologues, des gens qui mènent des ateliers, etc., qu'il y aurait comme ça cette division entre l'activité et la passivité. En fait, il n'en est rien. Et si on comprend bien certains écrits freudiens, on va faire attention à comprendre que chacun passe à tour de rôle, d'un rôle passif à un rôle actif, même on peut dire à un rôle pronominal, un rôle réfléchi, auto. Hein, et que c'est cette C'est cette circulation, là encore, des rôles qui fait qu'un adolescent va pouvoir trouver sa place. Bon, je parle d'adolescent, c'est vrai, chez les enfants aussi bien, hein, ou les jeunes adultes qui sont en formation. Et donc, si je reprends le modèle de notre triangle psychopédagogique, on est tous les trois à tour de rôle, actif et passif. Et ça, c'est très, très important.
Qu'est-ce qu'il y a d'insupportable, que ce soit pour les adolescents ou les enfants qui viennent consulter, mais aussi pour les élèves ou tout venant? Qu'est-ce qu'il y a d'insupportable dans la position de passivité que supposent très souvent les situations d'enseignement?
Oui, un adolescent peut pas supporter d'être passif en face d'un adulte qui aurait la capacité de lui transmettre, on pourrait dire par obligation, quelque chose qu'il sait et que lui, l'adolescent, ne sait pas.
Pourquoi c'est insupportable?
C'est insupportable. C'est parce qu'il est en train de construire son identité d'être sexué. Parce que partout ailleurs dans sa position sociale, il est amené à être actif. Et là, tout d'un coup, à l'école, il faudrait qu'il soit sur sa chaise à ne plus pouvoir bouger. Donc,
Cette idée de l'activité et de la passivité, c'est aussi quelque chose, Claire Nuninan, que vous travaillez dans les différentes position que vous faites prendre à l'élève. On invente toujours des manières de justement être actif, être passif pour l'élève et pour celui ou celle qui transmet.
Alors effectivement, alors bon, déjà en ce qui concerne la passivité, je pense qu'on a tous un jour adoré un cours magistral. On a tous été un jour subjugués par ce que nous racontait un professeur. Et je pense que ça fait vraiment partie aussi de la découverte du savoir, de l'acquisition du savoir. Après, c'est vrai que moi, au sein de mon CDI, dans ma pratique professionnelle...
Je vous coupe juste un instant, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est peut-être aussi parce que dans ces moments de cours magistraux, est-ce qu'on est vraiment passif? C'est aussi ça
question.
Qu'il faut discuter.
Effectivement, je pense
qu'une une attention prolongée et avec plaisir suppose nécessairement la passivité.
Loin
celui
de là,
qui écoute.
En fait. Je pense que effectivement, si c'est réussi, c'est que quelque chose en nous est touché et active notre pensée en même temps que celle du professeur. Ça, c'est une évidence. Par ailleurs, c'est vrai que dans ma pratique professionnelle, je fonctionne plutôt sur une mise en activité de l'élève. Que ce soit, tout à l'heure je citais la classe média, écrire un article, participer à une émission de radio, décrypter par atelier, enfin par petit groupe, une image. Je fais en sorte que l'élève puisse construire lui-même un savoir qui restitue ensuite en classe ou arrive à une production dont il peut être fier. Et je pense que ça participe aussi, oui, à l'acquisition du savoir, évidemment, mais au fait qu'il se rend compte que lui aussi peut être producteur d'un savoir, peut enseigner quelque chose à d'autres, écrire un article, par exemple. Bon, moi, on travaille beaucoup avec le Bondi Blog, hein, qui travaille vraiment à partir du vécu de chacun des jeunes et qui dit, bah, toi, t'as quelque chose à nous apprendre du monde. Voilà. Et quand on met l'élève dans cette situation-là, alors c'est réussi ou pas, peu importe finalement, c'est que l'élève ait eu une démarche où il s'est dit, bah, je vais transmettre quelque chose de mon vécu, de ma façon de voir le monde à d'autres.
Et est-ce que dans ces situations-là, vous voyez se révéler ou se réveiller ou être plus visible des désirs d'apprendre? C'est-à-dire qu'au moment de faire, est-ce que ça embraye sur « j'ai envie d'en savoir plus » d'un seul coup, ça oriente mon appétit de connaissance vers?
Déjà, ça crée une relation de confiance avec nous. C'est énorme déjà.
Nous égale le corps enseignant.
Le corps enseignant, hein, que ce soit mes collègues, donc Pascal Boujon, Aurore Viola, ou alors, bon, on travaille beaucoup avec le Bondi Blog, comme je l'ai dit, Bala Fofana, qui intervient auprès de nous. Une relation de confiance. Tout d'un coup, on voit l'élève changer son regard change par rapport à nous, et ça crée une attente par rapport à nous. Et d'autre part, effectivement, le fait de s'intéresser tout d'un coup à l'actualité, de voir que sa parole peut être intéresser les autres, suscite chez lui un intérêt pour le monde. Hein. Par exemple, quand vous êtes venu, j'ai une élève qui tout d'un coup, elle avait participé à l'émission sur le rêve politique. tout d'un coup, elle est venue me voir et elle m'a dit « Mais moi, je veux des documents qui parlent de ce qui se passe maintenant. » Voilà, des livres sur ce qui se passe maintenant. Donc, on a creusé un petit peu ce désir et elle est partie avec une petite pile de livres et de documents. Mais cette élève, elle n'aurait jamais fait cette démarche-là avant d'avoir été mise en situation de réfléchir, de communiquer et de partager des idées.
Claire Leninon, c'est vous qui avez souhaité entendre cette musique. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'une chanson de Blink Bassi. Bon, déjà, j'adore la mélodie qui porte au voyage, je trouve. Et par ailleurs, si j'ai bien compris, enfin, je ne parle pas cette langue, mais a priori, les paroles signifient « de tes efforts dépendront les résultats ». Et en fait, c'est un peu notre mission à nous, professeurs, de faire comprendre aux élèves que ça vaut le coup de faire des efforts, de s'engager pour le résultat, le plaisir qu'ils trouveront dans les études et dans la réalisation de ce que portent ces efforts.
Et quand ces efforts sont vraiment trop difficiles à produire, quand c'est trop coûteux pour l'élève, pour celui qui apprend Thierry Braconnier, quand le désir d'apprendre il est trop empêché par plein de choses, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on le réanime ? Comment est-ce qu'on lui redonne de la place ? Comment est-ce qu'on le rafistole éventuellement ?
Oui. S'il est très empêché... Il conduit souvent à une perte de la parole. Et donc, en disant ça, je donne aussi le remède, ça marche pour certains cas, évidemment, c'est de mettre le jeune en situation de retrouver la parole. C'est-à-dire de parler. Peut-être il faut d'abord beaucoup parler avec lui ou à sa place, puis lui donner l'occasion de parler. Et c'est souvent ça qui va remettre en route une pensée et avec la pensée du désir. Mmh. Et finalement, un désir.
Ça, c'est dans le cadre, des consultations que vous mettez en place, c'est-à-dire d'abord beaucoup de paroles, y compris une parole qui n'a rien à voir avec l'école, l'éducation nationale, les maths ou que sais-je. D'abord une parole pour simplement remettre la parole en jeu.
Exactement. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je ne dis pas que c'est comme ça à tous les coups, hein, mais ça, c'est important. Voilà. Mais là, effectivement, je ne peux vous parler que du contexte de la consultation ou de la psychothérapie ou de psychopédagogie. Si quelqu'un a jugé bon d'indiquer une psychopédagogie, c'est-à-dire d'utiliser une médiation thérapeutique, hein, que ce soit les mathématiques, dans mon cas, ou des médiations littéraires, ou ça se pratique aussi beaucoup des médiations artistiques. Médiation par le dessin, la peinture, des médiations plastiques, la terre, etc. Et là, ce sont des médiations qui n'utilisent pas forcément la parole. Mais c'est vrai que dans ma première réponse, je pensais à la thérapie, à la psychothérapie.
Claire Leninant, comment ça se passe quand vous observez chez un ou une élève que ce désir d'apprendre, il est vraiment mis à mal? Alors vous n'êtes pas, vous, dans un contexte thérapeutique, mais dans un contexte d'éducation, à l'école, au collège. C'est aussi la parole qui est votre premier recours?
Alors déjà, il faut savoir que cet élève va avoir du mal à franchir la porte du CDI. Forcément, puisque pour lui, c'est un lieu un peu étranger, c'est un lieu justement très associé à un savoir livresque, un lieu où on est calme aussi, c'est pas évident. Donc la première chose, ça va être effectivement d'essayer de le faire venir, s'il m'a été signalé par mes collègues, ou faire en sorte que quand sa classe vient pour une activité pédagogique,
être spécialement attentive
à lui. Très vite, il se fait remarquer. Très vite, on se rend compte qu'il va pas être, qu'il va y avoir un problème. Donc, effectivement, c'est d'abord instaurer un lien. Pas forcément, enfin, effectivement, la parole, hein, beaucoup. Mais là, on va être dans la relation. Je pense plus qu'une relation pédagogique, une relation humaine. On va s'adresser à lui, on va lui parler, on va lui faire comprendre à quoi sert ce lieu et en quoi il a sa place lui aussi dans ce lieu.
France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.
14h52 sur France Culture. Chaque jour, nos discussions se suspendent pour laisser place à un récit d'un moment qui a marqué le parcours de celui ou celle qui veut bien se prêter à cet exercice. En l'occurrence, cette semaine, c'est l'éditeur Henri Dougier qui le fait au micro de Romain de Bec-de-Lièvre. Et aujourd'hui, il évoque la compagnie royale de luxe.
Alors là, on parle d'émotion, mais alors c'est l'émotion décuplée. Quand vous voyez 100 000 au moins, 200 000 personnes pleuraient au même moment devant une géante en carton, habillée, qui cligne de l'œil. Et c'est les yeux qui sont magiques, parce que celui qui a créé Courcou, qui a créé Royal de Luxe, qui a fait ces marionnettes géantes qui font 6 mètres ou 8 mètres de long, bon, habillé, qui raconte une histoire, le scaphandrier, le grand géant, la fille, etc. Toujours quelques personnages. Bon. Et quand tout d'un coup, vous voyez ses yeux bouger, qui rient ou qui pleurent, les yeux sont techniquement absolument admirables, et que vous voyez cette foule entière qui est... J'en suis ému même maintenant, parce que c'est l'émotion qui transite par tous ces jeunes, et dedans il y a ma fille, donc... Je lui rends hommage, Caroline. Elle jouait les petites mains qui tirent, qui poussent, qui font, parce que c'est que des petites mains, ils sont des dizaines à agiter les pieds, les jambes, les yeux de ces géants. Et derrière, la foule qui attend, et les enfants qui disent « Regarde ce qu'elle va faire !» Et une ville entière qui accompagne, qui attend l'histoire, et qui attend que la géante s'endorme. Fouf ! Et le lendemain, la géante se réveille. Et la foule est là. Et ça dure un jour, deux jours. Moi, j'ai vu des marionnettes. Ce qui m'intéressait dans la marionnette, c'était... J'en ai vu au Mexique, je ne sais plus quand, il y a quelques années. Et je vais au musée d'Arte Moderno. Et le musée d'Arte Moderno avait une exposition particulière de marionnettes géantes. fait à la manière mexicaine avec des thèmes fous, à la fois animaux, dieux, végétaux, mélangés des géants. Tout ça en carton, papier carton. Et j'avais discuté avec la jeune femme qui préparait ça, qui était américaine d'ailleurs. J'avais dit, moi je rêverais, je vais y arriver un jour, je rêverais de faire une exposition géante, bien sûr. Un peu ce que fait Eva Jospin là, au Louvre, qui est très intéressant, avec des artistes qui font des œuvres en carton et en papier uniquement, mais en volume. J'avais fait une énorme recherche, enfin pas moi qui l'ai faite, c'est quelqu'un qui l'a faite pour moi, sur Internet. On avait découvert à peu près 200 créateurs dans le monde, architectes, stylistes et autres, comme il y a une merveilleuse styliste belge, Borgrave, qui fait que des robes, des chapeaux, des machins, en carton et en papier. C'est admirable. Des architectes danois qui font des villes entières en petit format, enfin petit format, des mètres carrés, de modèles réduits. Bon, magnifique. Et la créativité des artistes avec les Japonais, qui sont aussi excellents. Il n'y a pas que des origamis, il y a au-delà de l'origami. Et donc les Mexicains, ils m'avaient frappé, c'était les marionnettes géantes au Mexique. Ça m'avait donné un peu l'idée d'aller plus loin.
Je redessine un château fort pour faire passer ma gueule de bois. Je regarde la mort, page 303. Des cachalots, un mâchoire sans dents, le nerf facial, corde du tympan. Il y a la photo de Fernand Fourreau, dont personne n'a rien à cirer.
Le dictionnaire, un objet de désir, chanté par Mansfield Tia, qui sera en concert le 19 mai à Niort, le 20 mai à Biarritz, le 21 mai en première partie de Michel Clou à Billère, mais encore le 27 mai à Saint-Genis, le 28 à Annecy. La liste est belle et les concerts sont magnifiques. Allez-y. Thierry Braconnier, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Et Claire de Ninan, merci aussi à vous d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci vous saluerez beaucoup. Bien bas les élèves et les professeurs du lycée Jacques Decour. Les nouvelles vagues sont terminées. Vous pouvez réécouter tout ça sur franceculture.fr. On peut aussi s'écrire et se lire sur ce site-là. Et on peut le faire via Twitter et Facebook. Sur franceculture.fr, vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission de sorte que chaque émission vous soit livrée dans vos machines automatiquement et gratuitement. Une émission imaginée avec Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon et Somanina qui la réalise. Julien Delmas était aux manettes aujourd'hui, tandis que Julie Guéraud était au droit d'auteur. Demain, même heure pour nous, même antenne.